et suivre la lecture au chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons suivre la lecture à partir du verset 1er. C'est un texte bien connu. Nous l'avons lu. Nous avons entendu prêcher sur ces paroles du chapitre 2. Mais nous croyons que la parole de Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre, parce qu'elle est une parole vivante et permanente. Nous voulons donc la lire avec toute l'attention qu'elle mérite et nous attendre au Seigneur pour que, par le moyen de sa parole, il agisse dans notre vie, car il est certain que l'important, ce n'est pas seulement de la lire, mais c'est aussi et surtout de la vivre. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parlant ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Nous savons que la Pâque juive a été remplacée par la Pâque chrétienne, de même que la Pentecôte juive a été remplacée par la Pentecôte chrétienne. Ce n'est pas sans raison que la Pentecôte chrétienne a eu lieu 50 jours après Pâques et 10 jours après l'Ascension. Nous entrons, nous le savons bien, avec le Nouveau Testament dans l'Alliance de la Grâce et l'Écriture nous dit concernant l'Ancien Testament que ce qui a vieilli est prêt de disparaître, et c'est ainsi que l'Épître aux Hébreux s'applique à nous démontrer que l'Ancien Testament n'était que le pédagogue, l'enseignant, pour nous conduire à Jésus-Christ, et que ce qui est important pour l'être humain, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Nous avions déjà remarqué au chapitre 1er que l'Écriture nous dit au verset 14 que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Et au chapitre 2 de notre lecture et au verset 1er, l'Écriture répète ceci: ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Non seulement c'était le même lieu qui les réunissait, mais le verset 14 du chapitre 1er précise leur unité de cœur. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Il est certain que lorsque les cœurs sont unis dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, il n'y a pas de problème pour que les croyants persévèrent dans le même lieu. Mais il y a plus important que le fait d'être dans le même lieu. Ce qui est plus important, c'est que nos cœurs ne fassent qu'un dans le Seigneur. Dans le mot « accord », il y a le mot « cœur ». Tous d'un commun accord, ou tous d'un même cœur, persévéraient dans la prière. Et 10 jours après l'ascension de Jésus, nous allons les retrouver tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Notons bien la précision que nous donne la parole de Dieu. Il vint du ciel un bruit. Le bruit n'est pas venu de la terre, mais le bruit est venu du ciel. Nous pouvons être plus ou moins nombreux et faire plus ou moins de bruit. Nous pouvons avoir une voix plus ou moins forte et faire plus ou moins de bruit. Mais ce qui est important, ce n'est pas le bruit qui va venir de la terre, c'est le bruit qui va venir du ciel. Il arrive que le bruit qui vient de la terre soit gênant et indispose certaines personnes, tandis que le bruit qui vient du ciel ne gêne personne et ne peut que contribuer à la gloire du Seigneur. D'ailleurs, c'est ce bruit qui est venu du ciel qui a permis que des milliers de personnes qui se trouvaient à Jérusalem se rassemblent autour de la maison où étaient les 120, et c'est ce qui leur a permis d'entendre la bonne parole du Seigneur. Donc il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et c'est à ce moment-là que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Lorsque le Seigneur Jésus a été rempli du Saint-Esprit après son baptême au Jourdain, l'Écriture que nous dit que l'Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. c'est exactement le même esprit. Mais quand cet esprit descend sur Jésus, il descend sous la forme corporelle d'une colombe, parce que Jésus, le Fils de Dieu, est unique. Donc un esprit symbolisé par une colombe qui descend sur la personne du Seigneur Jésus, ce qui amènera Jésus à dire peu de temps après, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Ici, ce ne sont pas les individus en tant que tels qui sont uniques dans le même sens que Jésus, le Fils de Dieu, peut l'être, c'est l'Église qui est une. Et à partir du moment où le monde va avoir affaire à l'Église ou à Jésus au travers de l'Église, alors il y a des langues de feu qui remplissent la pièce et qui vont se poser sur chacun des disciples, ce qui nous montre bien, comme nous l'avons relu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 14, que c'est l'Église qui doit être au travail, que le Saint-Esprit n'est pas donné dans l'Église à une personne pour que cette personne fasse tout le travail, que le Saint-Esprit n'est même pas donné à 50 ou 60% des chrétiens pour que cela fasse le travail pour les autres, mais la volonté de Dieu est que le Saint-Esprit soit en chacun, que le Saint-Esprit soit sur chacun, afin que ce soit l'Église qui, d'un même cœur et d'une même âme, fasse l'œuvre de Dieu, comme le Seigneur Jésus l'a accompli quand il était sur la terre, il le dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et avant d'envoyer ses disciples, avant qu'ils ne partent en mission, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et l'Écriture nous dit, semblable à des langues de feu. C'est le feu de l'Esprit qui doit nous animer jusqu'à la dernière minute de notre vie. On parle de tiédeur, on parle de refroidissement spirituel, mais le secret du réchauffement, c'est le feu de l'Esprit. Il n'y en a pas d'autre. Nous pouvons trouver des méthodes humaines, nous pouvons trouver des moyens qui ressembleront à ce que le Saint-Esprit peut faire, mais la flamme sacrée, elle vient du Saint-Esprit. Le cœur bouillant est rendu bouillant par le Saint-Esprit, et notre service dans le feu sacré, c'est encore l'affaire du Saint-Esprit. Donc, les langues représentant l'Esprit Saint se posent sur chacun d'eux, et l'Écriture dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Il faut ici préciser deux choses. La première, c'est que le Saint-Esprit est une personne. L'Écriture, surtout dans l'Ancien Testament, parle de l'Esprit de Dieu avec un « E » minuscule dans ce cas-là, parce que c'est l'Esprit de la personne de Dieu, l'Esprit de la personne du Père Céleste. Mais quand nous parlons de Dieu le Père, de Jésus le Fils et du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, nous parlons d'une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une émanation de Dieu le Père. Le Saint-Esprit est une personne qui compose la Trinité, bien que le mot ne soit pas dans la Bible, qui compose la Trinité, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc trois personnes, ils furent tous remplis du Saint-Esprit en tant que personne. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. N'avons-nous pas commis l'erreur? Involontairement, certes, mais n'avons-nous pas commis l'erreur dans le domaine du baptême dans le Saint-Esprit de rechercher le parler en langue au lieu de rechercher la personne? C'est quand la personne du Saint-Esprit remplit le lieu où ils étaient assemblés que les 120 se mirent à parler en d'autres langues. Donc, ne ramenons pas le Saint-Esprit au seul parler en langue, mais considérons que le parler en langue doit être l'expression de la personne du Saint-Esprit, et c'est tout à fait différent. J'ai reçu ces jours-ci un journal traduit des États-Unis, et j'ai remarqué ces paroles qui sont écrites par l'assistant du superintendant, qui dit ceci: trop de pentecôtistes cherchent des expériences, trop de pentecôtistes cherchent des expériences au détriment de la recherche de la vérité. Beaucoup aspirent à voir Dieu faire de grandes choses pour eux, tout en fuyant ce même Dieu qui veut faire chaque jour un travail en nous. Et en fait, c'est ça qu'il nous faut bien comprendre. L'expérience, oui, mais l'expérience de Pentecôte avec une personne remplie du Saint-Esprit, remplie de la personne du Saint-Esprit, et ensuite l'extériorisation de l'action de cette personne par le parler en langue, entre autres, et les dons spirituels ensuite. Mais ne ramenons pas l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit au seul parler en langue. C'est d'abord une personne qui vient habiter notre cœur, qui vient habiter l'Église et qui s'exprime par le parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et lorsque nous lisons les versets 5 à 11, nous remarquons que, à partir du même lieu, à partir de 120 personnes remplies de la personne du Saint-Esprit, et manifestant cette expérience par le parler en langue, il y a un territoire très vaste qui a été touché à partir de ces hommes et ces femmes qui étaient à Jérusalem. Ça va de la Libye d'un côté jusqu'à la Mésopotamie de l'autre, ça va jusqu'en Asie mineure au nord d'Israël, ça descend en Égypte. Il y a un territoire très vaste qui a été touché par cette action du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, est la réponse à cette question. Les 6 ou 7 milliards d'hommes et de femmes et de jeunes et d'enfants que compte notre planète, comment pourront-ils être touchés? Ils pourront l'être par l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons, nous, employer des moyens, et certes il faut le faire, distribuer des prospectus, des Bibles, des Nouveaux Testaments, des bulletins, l'appel de la vie ou autre, nous devons faire ce travail. Mais qu'est-ce que ce travail au regard des besoins de notre monde, qui a des besoins immenses? Eh bien, ce que nous ne pouvons pas faire, le Saint-Esprit peut le faire d'une manière qui nous dépasse. Parce que quand Jésus a dit à ses disciples « ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut », je suis certain que les disciples ne s'imaginaient pas que 10 jours après, au moment de la Pentecôte, il pourrait toucher des milliers d'hommes et de femmes venant de nombreux endroits différents. Or, comment les choses se sont-elles passées? L'Écriture ne nous le dit pas. Est-ce que les 120 ont tous parlé en crétois? Est-ce que 3 minutes après, ils ont tous parlé en arabe? Est-ce que 10 minutes après, ils ont tous parlé en libyen ou en égyptien? Nous n'en savons rien. Nous ne savons pas comment les choses se sont passées, mais ce qui est certain, c'est que chacun de ceux qui étaient présents, quelle que soit sa race ou sa nationalité, les a entendus parler dans sa propre langue des merveilles de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce qui est réjouissant, que cette action du Saint-Esprit se soit produite à partir d'hommes et de femmes qui avaient obéi à la parole de Jésus, « Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et l'expérience qui a été faite au jour de la Pentecôte nous rappelle l'expérience de la manne. Vous savez que le mot « manne » vient du mot « manne » ou « quand les Israélites se sont levés un certain matin » et qu'ils ont vu la terre couverte de cette manne qui ressemblait à de la rosée, ils se sont exclamés, Manou, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était la nourriture que Dieu allait leur donner miraculeusement pendant 40 ans. Qui aurait pu nourrir des centaines de milliers de personnes, puisqu'on parle de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Qui aurait pu nourrir tant de monde pendant 40 ans dans le désert, sinon le Dieu vivant et vrai? Mais au départ, le peuple a été surpris, étonné. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et là, on trouve le même étonnement. Le même étonnement parce que ceux qui assistent à cette manifestation de la puissance de Dieu savent que les 120 qui sont là sont tous galiléens. Ça, ils le savent. Alors, ils se disent, mais comment? Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu? C'est le miracle de la Pentecôte. Le miracle de la Pentecôte, c'est d'amener les êtres humains pécheurs et perdus en contact avec le Dieu vivant et vrai par l'action du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul a repris au chapitre 14 de son épître. Il dit, si dans l'une de vos réunions, il entre un homme du peuple ou un non-croyant, et là il parle de la prophétie, il dit, si tous prophétisent, alors ce non-croyant, ce pécheur inconverti, va être saisi dans son cœur. Il va se demander ce qui se passe. Et l'apôtre Paul dit, il reconnaîtra que Dieu est au milieu de vous. Il tombera sur sa face et il adorera le Dieu vivant et vrai. Le but de l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas de dire j'ai parlé en langue tel jour à telle heure ici ou là, ça n'est pas la raison profonde. Le but, c'est que la personne du Saint-Esprit nous habite du matin au soir, du soir au matin, jour après jour, et que par les dons spirituels, les langues, l'interprétation, la prophétie et autres, que par les dons spirituels, les pécheurs inconvertis entendent parler des merveilles de Dieu, que les secrets de leur cœur soient dévoilés et que, reconnaissant qu'il y a là une action de Dieu, ils publient que Dieu est réellement au milieu de nous. Parce qu'en fait, Le monde n'a pas besoin de savoir qu'à côté des baptistes, il y a les pentecôtistes, et qu'à côté des pentecôtistes, il y a une autre catégorie de croyants. Le monde a besoin de savoir où se trouve Dieu, où rencontrer Dieu, où rencontrer le Dieu vivant et vrai, où rencontrer celui qui nous aime et qui est venu pour nous sauver dans la personne de notre Seigneur Jésus. Donc les uns vont être étonnés, ils vont se demander ce qui se passe, et puis ce qu'on trouve dans les évangiles avec Jésus, d'autres vont se moquer. Ils vont se moquer et ils diront, ils sont pleins de vin doux, et c'est à ce moment-là que l'apôtre Pierre va se présenter avec les onze, il va élever la voix et il va leur parler. Mais remarquons que l'apôtre Pierre agit avec beaucoup de sagesse. Le Seigneur Jésus avait dit, « Quand sera venu le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi et il me glorifiera. » Il les entendait parler dans leur langue des merveilles de Dieu. C'est le but de l'action du Saint-Esprit, les merveilles de Dieu, et glorifier le nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va faire. Il va leur parler du Messie, de leur Messie, qu'ils viennent de rejeter, qu'ils ont crucifié. Il va leur parler de Jésus, mais avant de leur parler de Jésus, il va leur prouver par les Écritures, il va leur prouver par leurs Écritures, par leur Bible à eux, par leur livre saint à eux, que ce à quoi ils assistent est annoncé dans leur livre saint par les prophètes et notamment par le prophète Joël. Bien que Pierre ne va pas cacher sa foi en Jésus, bien qu'il va dire les choses telles qu'elles doivent être dites, il ne les aborde pas de manière à les heurter, à les bloquer, mais il va ouvrir leur cœur à cette expérience dont ils sont témoins en leur disant « Mais vous êtes étonnés, étonnés de ce dont vos prophètes vous ont parlé, étonnés de ce qui est annoncé dans vos livres saints, étonnés de ce que vous croyez depuis longtemps, eh bien voilà. Voilà aujourd'hui ce qui se passe, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et là je crois que nous avons pour le témoignage une leçon de sagesse. Il nous faut parler de Jésus, il nous faut rendre témoignage à Jésus-Christ, mais en fonction de la personne que nous avons devant nous, employons le bon moyen. Employons la bonne méthode. Laissons-nous instruire par l'Esprit. Jésus n'a pas parlé à la Samaritaine comme il a parlé avec Nicodème. Avec Nicodème, Jésus s'adressait à un théologien. Avec la Samaritaine, Jésus s'adressait à une femme qui n'était ni juive ni païenne, demi-juive, demi-païenne. Il n'a pas pris la même méthode pour Nicodème qu'il a prise que celle qu'il a prise pour la femme samaritaine. Une chose est certaine, c'est que l'un comme l'autre ont été marqués par la parole de Dieu et nous avons besoin d'avoir de la sagesse dans notre témoignage du Saint-Esprit, certes, mais aussi de la sagesse pour parler aux perdus de notre Seigneur Jésus. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, c'est 9h du matin, mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël, par votre prophète, par l'un des prophètes de votre peuple, c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il faut faire une différence entre les derniers jours et le jour du Seigneur qui, ou le jour de l'Éternel qui marquera vraiment la fin des temps. Néanmoins, nous notons que les derniers jours ont commencé avec la Pentecôte. À partir de l'expérience de la Pentecôte, le compte à rebours a commencé. C'est vrai que 2000 ans se sont écoulés, mais aujourd'hui, vivons-nous les derniers jours, les dernières heures, les dernières minutes avant l'enlèvement de l'Église? Une chose est certaine, c'est que le Seigneur revient et dans l'attente de son retour, nous avons besoin d'avoir de l'huile dans nos lampes et de l'huile en réserve. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que la Pentecôte a marqué le début des derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et écoutons bien, parce qu'au fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, le lire c'est bien, le vivre c'est mieux. Vos fils et vos filles prophétiseront. Jeunes gens, jeunes filles, c'est une parole qui vous concerne. Non pas je vais rue de Coville, non pas j'ai été baptisé rue de Coville, mais j'ai été sauvé par l'amour de Dieu en Jésus-Christ, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, et par l'action du Saint-Esprit, je prophétise. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est la promesse qui se trouve dans l'Écriture, non seulement pour les contemporains de l'apôtre Pierre, mais pour chacun d'entre nous, vos jeunes gens auront des visions, non pas des cauchemars, non pas des rêves qui n'ont ni queue ni tête, mais vos jeunes gens auront des visions, et l'Église et le monde ont besoin, aujourd'hui encore, de jeunes hommes et de jeunes filles qui aient des visions communiquées par le Saint-Esprit. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Et n'oublions pas non plus ce que l'Écriture ajoute, vos vieillards auront des songes. Il n'y a pas un âge où le chrétien n'est plus bon à rien. Vos vieillards auront des songes. Ce sont des songes qui ont bouleversé le pays d'Égypte. C'est quand Joseph a expliqué à Pharaon les songes qu'il avait eus, qu'il est devenu premier ministre du Pharaon, que toute sa famille a bénéficié de ce privilège et que des peuples ont été placés au bénéfice de la grâce de Dieu. Eh bien, ce peut être la même chose aujourd'hui avec les personnes âgées. Vos vieillards auront des songes. Ce sont des songes qui ont bouleversé l'empire de Nebuchadnezzar au temps de Daniel et de ses compagnons. Et nous voyons que ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, Dieu veut que les choses se reproduisent aujourd'hui encore, parce que ça fait partie de l'Écriture. Ça fait partie de ce qui est permanent, de ce qui est vivant. Vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand nous prions pour que Dieu bénisse notre témoignage, quand nous prions pour que Dieu bénisse nos réunions, nous prions pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, afin que les pécheurs perdus, jeunes ou plus âgés, invoquent le nom du Seigneur et qu'ils soient sauvés. Voilà ce que doit être l'Église. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné au jour de la Pentecôte. Et vous savez, nous le verrons, que l'apôtre Pierre a dit à tous ces gens qui étaient devant lui, « La promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Seigneur, que ton bon esprit souffle sur le monde. Que ton bon esprit souffle sur nous. Que ton bon esprit remplisse mon cœur et ma vie, afin que ceux et celles au milieu desquels nous vivons puissent connaître Jésus et être sauvés pour l'éternité.